Soyez les bienvenus. C'est l'heure de retrouver Alain Jeanne pour votre émission Chut, on écoute la télé, le talk show radio en podcast maintenant sur onécoutelatélé.com. Chut, on écoute la télé avec votre biscuiterie Les Caprices de Thérèse. Des biscuits fabriqués à Blanzac en Haute-Vienne avec un savoir-faire artisanal et un goût authentique. Découvrez toutes nos recettes en grande surface, Les Caprices de Thérèse. Dégustez l'excellence. Chut, on écoute la télé avec votre agence de voyage Les Ailes du Partage. Amandine, votre interlocutrice privilégiée, vous proposera voyage à la carte et sur mesure, adapté à votre budget dans le monde entier. Passez du rêve à la réalité en réservant votre prochain voyage au 06 72 32 47 67 et sur voyage-solidaire.com.
Succomber au plaisir d'un dessert Marie Morin en écoutant Chut, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez la fameuse mousse au chocolat à l'ancienne et vos recettes sans colorant, sans conservateur et vos points de vente près de chez vous sur marie-morin.fr.
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé.
Bonjour à tous et très bon début de semaine. Ravi de vous retrouver sur notre site onécoutelatélé.com pour Chut, on écoute la télé, le podcast. Tous les lundis à 20h, eh bien, nous vous donnons rendez-vous justement pour ce podcast avec tous nos invités où pendant une heure, nous allons vous accompagner pour passer en revue l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Alors, vous savez pas? Eh bien, on va faire tout de suite le sommaire. Eh bien, oui, c'est parti.
Chut, on écoute la télé.
Le talk show radio.
Allez, au sommaire de ce nouveau numéro de Chut, on écoute la télé, l'hebdo, dans une poignée de secondes, l'équipe du film coup de cœur de cette semaine qui sortira le 12 novembre au cinéma, c'est Kika. À cette occasion, Manon Clavel et Makita Samba vont nous rejoindre. Nos coups de cœur télé cette semaine avec Clémence Lassalas qui sera à l'affiche avec Claire Kem ce soir d'Un crime presque parfait sur TF1. Un rendez-vous à ne pas manquer. Et puis Nasser Ayan débarque mercredi sur France 2. Pour notre plus grand plaisir, vous allez découvrir le pilote de cette nouvelle série. On aura le plaisir de recevoir les deux producteurs, Jean-Pierre Alessandri et Stéphane Kaminka, la réalisatrice Julie Manoukian et nos deux héros, Nadia Rose et Elias Kadri. Et puis Maxime Lélu joue Jordan depuis plusieurs années maintenant dans Demain nous appartient. Maxime Lélu sera notre invité pour la première fois dans Chut, on écoute la télé. Alex Hugo revient demain soir sur France 3 pour un nouvel épisode inédit. Le réalisateur Thierry Petit et puis celui qui joue Renard depuis de nombreuses années, Mickaël Fitoussi, seront avec nous pour en parler. Et puis en fin d'émission, on terminera avec Christelle Oscar, directrice artistique du Festival du film de Sarlat, qui sera avec nous à la veille du lancement de cette nouvelle édition qu'on vivra avec vous tout au long de la semaine sur nos réseaux sociaux. Et bien Christelle nous dévoilera les contours de cette édition qui s'annonce déjà événement. Et puis enfin, en exclu podcast, on va recevoir cette semaine Stéphane Demoustier. Il sera donc le réalisateur de ce film qui sort mercredi dans les salles, L'Inconnu de la Grande Arche, qui racontera une partie du pan de l'histoire de la construction de l'Arche de la Défense. Vous l'avez compris, on va pas s'ennuyer encore une fois aujourd'hui dans Chut, on écoute la télé. Alors c'est parti, notre premier coup de cœur ciné est consacré à Kika.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, notre coup de cœur cinéma cette semaine est consacré au film Kika, qui sort dans les salles d'Alex Epokine, avec Manon Clavel qui nous rejoint. Bonjour Manon.
Bonjour.
Je joue le rôle titre de Kika, justement, on va en parler avec toi Manon. Et puis un habitué de l'émission, Makita Samba, qui est avec nous. Bonjour Makita.
Bonjour, ça va?
Bah écoute, ça va très bien, je suis très heureux de te retrouver pour ce très joli film, en tout cas ce joli premier film qu'on va pouvoir découvrir d'Alexé. Merci d'être là Makita.
Merci beaucoup, franchement, ça fait plaisir de se revoir.
Exactement. Manon, Kika, c'est un rôle difficile. Comment tu l'as appréhendé avant de planter un peu le décor ensemble?
Alors, il y a eu plein d'étapes, en fait. J'ai fait, par exemple, un stage dans un centre social à Bruxelles, parce que le personnage est assistante sociale. Donc, j'ai eu la chance de passer une semaine avec des femmes incroyables qui m'ont guidée pour rendre ce
personnage le plus crédible possible.
Voilà, exactement. Et ensuite, dans la deuxième partie du film, Kika a un autre métier. Et Alex Pookin, justement, elle vient du documentaire et elle m'a demandé justement de ne pas me documenter sur ce deuxième métier pour vraiment capturer mes sensations réelles, en fait, dans ce cadre que je ne connais pas du tout, avec des codes que je ne connais pas. Donc ça, c'était par rapport au métier de Kika. Kika, et sinon je l'ai vachement travaillé en répétition avec la réalisatrice. J'ai fait passer tous les castings aux autres acteurs, donc du coup on a vraiment tissé des relations avec celle qui joue ma fille par exemple. On a passé beaucoup de temps ensemble, Makita évidemment aussi, toutes les personnes avec qui j'ai des relations assez intimes dans le film. On a beaucoup beaucoup répété, c'est un rôle que j'ai travaillé émotionnellement de mon côté. C'est vrai que c'est un rôle très intense dans lequel j'ai mis beaucoup de cœur, et voilà, tout au long du tournage.
Ouais, t'as énormément de scènes d'une intensité assez folle sur ce film, faut quand même le souligner, parce que c'est pas toujours évident de garder cette intensité tout le long comme ça, et là c'est le cas. Alors Kika, en fait, c'est, tu le disais, une assistante sociale, on va dire presque à qui tout sourit, tout va bien dans sa vie pour l'instant. Et puis elle décide de prendre voilà un chemin de traverse quand elle fait la rencontre de son réparateur de vélo d'un soir, qui est incarné par Makita Samba, qui est là et qui va faire chavirer son cœur.
Exactement, voilà. Oui, une histoire de chemin de traverse, absolument, de chemins qui se croisent et qui prennent des directions différentes ensemble dans le film. Et c'est une des plus belles parties du film, en tout cas, cette histoire d'amour qui se tisse entre Kika et David et qu'on a adoré tisser avec Manon. On n'avait jamais joué ensemble, on se connaît un peu, on est des mêmes générations d'acteurs, mais on a adoré en fait créer cette histoire d'amour et de vie ensemble, ouais.
Alors, il faut dire que si la première partie part en comédie romantique, c'est pas le cas de tout le film, parce que c'est vrai que ce film, du coup, a plusieurs synergies qui viennent se succéder jusqu'au moment où il arrive un drame avec le personnage que joue Makita, où Kika va devoir totalement se réinventer, bouleverser sa vie, et qui va prendre un nouveau chemin, malgré elle, des fois, bon gré malgré. Mais en tout cas, voilà, c'est là que toute l'intensité du personnage part.
C'est ça. En fait, je trouvais hyper intéressant quand j'ai lu le scénario pour la première fois, c'est que la structure du scénario, je trouvais ça hyper beau de regarder un film, de croire qu'on regarde une comédie romantique, et dans la structure du scénario, assez rapidement, au bout de 20 minutes, je crois, ça part sur complètement autre chose. Le ton change. Je trouvais ça surprenant, en fait, inattendu, cette structure, cette manière de l'écrire.
Et à la fois, quand il arrive ce bouleversement dans la vie de Kika, on suit avec elle sa lente résurrection, j'oserais dire presque, ce qui fait qu'on n'est pas bousculé d'un changement à l'autre, nous, spectateurs. C'est ça aussi qui est très bien fait dans le scénario, je trouve.
Oui, c'est subtil, et les spectateurs suivent avec elle, vivent en fait chaque instant avec elle. Il y a une grande empathie avec ce personnage, et voilà, ça j'adore.
Et c'est vraiment un film sur la résilience aussi.
Absolument, oui, et puis c'est la force d'Alex Poutine, dont c'est la première fiction, mais qui est vraiment très très aguerrie en fait, à être au plus près de la réalité, vu qu'elle vient du documentaire. Et en fait, cette histoire de résilience, je trouve, en tant que spectateur, moi, pour l'avoir aussi vu, le film, bien sûr, elle se construit avec Kika et avec le film, en fait. Donc, c'est une grande intelligence, en fait, de raconter cette histoire-là comme ça. Et les thèmes qui sont abordés, ils sont quand même assez forts, et ça tombe dans aucun écueil. En fait, c'est assez dur de trouver un équilibre, justement, en même temps que le personnage. Le film le cherche aussi, et j'aime bien, moi, les choses qui se font à vue, un peu comme ça, quoi.
C'est clair. Surtout que le personnage va vivre encore un bouleversement en même temps que cette séparation brutale. C'est qu'en plus, ça va être enceinte.
Exactement.
Donc ça va compliquer la situation.
Il y a vraiment énormément de facteurs qui rendent sa vie bien, bien compliquée. En effet, entre la précarité, le drame et le fait d'être enceinte, c'est vraiment... rien ne va pour cette pauvre Kika. Et pourtant, en fait, c'est ça. C'est moi, quand j'ai travaillé dans le centre social pendant le stage, elle m'expliquait, en fait, les assistantes sociales, que parfois, les gens, il leur arrive un bouleversement, un accident de vie, ça s'appelle. Et on pense qu'on est à l'abri de ça. On se raconte, par exemple, en tant que femme, qu'on est indépendante, etc. Mais en fait, arrive cet accident de vie et tout s'effondre. Et on se retrouve dans une situation de précarité qu'on n'avait pas du tout imaginé qu'on pourrait vivre.
Vivre, surtout quand on est assistante sociale.
Exactement.
Qu'on aide les autres à longueur de temps.
Et qu'on refuse du coup d'être celui qu'on aide. Ça, c'est vraiment l'enjeu aussi de Kika. Elle ne veut pas souffrir. Elle met ça à distance, etc. Et je trouve aussi que c'est un film, tu parlais des thèmes, mais ça... Quand vous verrez le film, il y a des choses qui ont un rapport avec la souffrance, avec la douleur. Mais je trouve que finalement, ce film ne parle que de douceur et au contraire de bienveillance. Enfin...
Oui, il y a même des scènes qui sont très poétiques entre vous deux. Il y a vraiment, voilà, il y a plein de choses différentes, vous allez voir en tout cas.
Kika sort le 12 novembre au cinéma. On va écouter la bande-annonce et on revient juste après avec vous, Makita et Manon. À tout de suite.
J'adore cette chanson.
J'ai beau me dire...
David.
Kika.
Tu fais quoi là?
Je suis assistante sociale.
J'ai rendez-vous avec madame, c'est ça?
Allez, bonne journée, je t'aime.
Rien ne t'efface.
J'ai juste un tout petit peu enceinte.
Mais comment ça, un tout petit peu?
Allez.
Tu vas faire quoi là avec l'appart et tout?
Faut qu'on bouge d'ici la fin du mois.
Et quelqu'un à qui tu peux emprunter de l'argent?
Comment vous payez votre loyer?
Bah, je vends mes culottes sales.
Ok, ça je vais pas le mettre dans le dossier.
Vous me traitez de gros dégueulasse et je vous donne 50 euros de plus.
Vous êtes un gros dégueulasse.
Pourquoi vous me dites ça?
Attendez, c'est vous qui m'avez demandé.
Oui, oui, mais argumentez.
Voilà, Kika sort du cinéma. Manon Clavel et Makita Samba sont avec nous pour en parler. Alors, on va pas dire, évidemment, pour pas dévoiler tout le film, mais c'est vrai que Kika va prendre un chemin très particulier. Est-ce que c'est des scènes qui ont été difficiles pour toi?
Eh ben, bizarrement, pas tant que ça. En fait, je pensais que c'était ça l'enjeu. Je crois que pour moi, le plus gros enjeu, il était surtout d'ordre émotionnel. Donc, ce qu'on disait surtout en première partie, pour moi, c'est ça le plus difficile. Tout ce qui était de l'ordre du, bah, donc, de ce qu'on peut pas révéler là maintenant, mais toutes ces scènes un peu plus physiques, en tout cas. Sur le plateau, en tout cas, il y avait une énorme joie à les faire, beaucoup de plaisir, et je me suis hyper bien entendue avec chacun de mes camarades avec qui j'ai fait ces scènes assez délicates. Et finalement, c'était pas si compliqué que ça. J'ai pris ça comme des cascades, en fait, finalement. Et puis, il y a quand même une espèce de dissociation qu'on fait quand on vit ça. Donc, il y a des sorties de corps, quoi. On voit un peu Kika se regarder vivre cette situation, et je pense que moi, je regardais Kika qui regardait cette situation. Donc, voilà, on le prend un peu avec recul quelque part.
Et il y a beaucoup de pudeur dans ces scènes, hein, faut quand même le spécifier.
Bien sûr, il y a rien qui essaye de choquer ou de provoquer. Enfin, ça reste en effet plein de finesse en fait. Et non, j'ai au contraire pris beaucoup de plaisir et je me suis beaucoup amusée à les faire.
Makita, c'est quoi ta scène préférée quand t'as vu le film Bonté? Est-ce que c'est une de celles que t'as jouées, ou est-ce qu'après t'as pu être bouleversée peut-être par une scène qu'a jouée Manon?
Ben, j'avoue que Manon a parlé de recul là, qu'on en prenait quand même beaucoup entre les prises, qu'on a quand même beaucoup ri sur ce tournage, il faut le dire, et que Alex, elle a réussi à capter quand même des moments de vie aussi entre nous qui n'étaient pas forcément scriptés. Je crois que ma scène préférée, c'est pas celle où je joue, c'est celle qui est Kika avec ses parents et avec le personnage de Jean-Pierre qui lui explique comment faire des pâtes à la tomate pour la remettre sur le chemin de la vie. Ça, il y a quand même un mélange de rire et de larmes et en même temps de trucs qu'on connaît tellement, quoi, que j'avoue que ça, je trouve que j'ai trouvé ça franchement adorable. Ouais, j'avoue.
Oui, parce que pour cœur de tout, elle a des parents en plus un peu particuliers.
Très particuliers, elle a vraiment...
Je crois qu'elle a tout, la pauvre.
Elle a vraiment tout, il y a vraiment un qui va. Du coup, elle se retrouve à devoir revivre chez sa mère alors qu'elle a 35 ans. Et elle a un beau-père qui est, voilà, Bernard Blancan, qui est extraordinaire et qui fait ça extrêmement bien, mais qui est un personnage insupportable.
C'est vrai que Manon, quand le personnage est vraiment comme ça à bout et qu'il y a tellement de choses qui lui tombent dessus comme ça, à un moment donné, ce qui est beau, c'est de voir cette reconstruction du personnage et comment elle va s'en sortir. Ça peut être un exemple aussi, des fois, pour des personnes qui vivent des drames dans leur vie, et de se dire, bah, il y a une lumière au bout du tunnel. C'est aussi ça le message du film.
Bien sûr, absolument.
Alors, Kika sort mercredi dans les salles. Makita, on te retrouvera très bientôt, puisque début janvier, tu seras à l'affiche également de Fursi, Né Libre, un film incroyable. Moi, j'ai vu qu'il m'a bouleversé dans les discours, des réquisitoires, etc. On prend conscience, peut-être, de nos jours, de ce qui a pu se passer à cette époque-là, qui était absolument insoutenable de nos jours. Mais tu reviendras nous en parler début janvier. Est-ce que tu démarreras 2026 avec nous?
Avec plaisir.
C'est une bonne nouvelle.
Ouais, c'est une bonne nouvelle, absolument. Mais franchement, avec plaisir, oui.
Tes projets, Manon, pour toi?
Alors, je vais bientôt tourner dans un film de Amé, réalisé par Amé et Marion Boyer. C'est leur prochain film qui va s'appeler Promis, avec Sofiane Kames. C'est un peu comme le début de Kika d'ailleurs, c'est une histoire d'amour, mais voilà, c'est ça le film, l'histoire d'un adultère, enfin de personnes qui tombent amoureuses en dehors de leur couple. Je vais tourner aussi dans le prochain film de Marion Desseigneur-Avel aux côtés de Zita Enro et Salif Cissé. J'ai aussi d'autres projets dont je peux un tout petit peu moins parler, un projet de mini-série et du théâtre aussi qui m'attendent, voilà, qui sont encore en construction.
Bon, plein de belles choses en tout cas. Merci Manon, merci Makita d'avoir été avec nous. Kika sort ce 12 novembre au cinéma. Merci infiniment en tout cas d'avoir été avec nous. Je vous dis à bientôt.
Merci beaucoup, à bientôt, merci.
Merci, à bientôt.
Tu débutes, c'est ça?
Lâche-moi dessus.
Tu dois mettre tes pratiques là. Golden shower, ball busting, paddle, spanking.
Pardon, mais je parle pas très bien anglais.
T'apprendras sur le tas.
Pardon, excusez-moi. Non mais oh, vous me payez là.
T'es pleine de boutons, t'es sèche.
Madame, ça va pas là.
Ah ah, sale pute.
Mais en vrai, pute, c'est comme assistante
voilà
sociale.
Dominatrice, je trouve que c'est quand même beaucoup mieux payé qu'assistante sociale.
Je te vois et je m'inquiète pour la petite et je m'inquiète pour toi aussi.
Je gère. C'est quoi que vous cherchez dans la douleur?
Je cherche rien à la douleur. J'ai tout le temps mal. Mais si au moins, j'ai qu'à dire un mot et ça s'arrête.
Refuser de souffrir, c'est aussi refuser de vivre.
Ça va aller?
J'espère.
Je pense à toi.
Allez, notre coup de cœur cinéma cette semaine est consacré au film L'Inconnu de la Grande Arche qui sort mercredi dans les salles. Nouveau film de Stéphane Demoustier qu'on a plaisir à retrouver aujourd'hui. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, L'Inconnu de la Grande Arche raconte et nous projette en 1983 avec cette Grande Arche de la Défense et qui va nous raconter un petit peu la petite histoire dans la Grande en quelque sorte.
Ouais, c'est ça. C'est que Mitterrand avait lancé des grands travaux et que le lauréat pour le projet à la Défense qui avait proposé une arche est un type totalement inconnu qui s'appelle Johan Otto von Spreckelsen, danois, qui a plus de 50 ans, qui a jamais rien construit à part sa maison et trois églises. Et qui se retrouve propulsé à la tête de ce qui était à l'époque le plus gros chantier, avec une sorte de saut dans le vide pour lui, puisqu'il découvre un nouvel horizon qui est l'administration et le monde politique parisien français. Et puis surtout, il découvre une échelle de projet qu'il connaissait pas jusque-là. Donc, le film raconte vraiment le destin de ce type. C'est une fiction à partir d'éléments totalement réels. C'est-à-dire que tout ce qui concerne le chantier dans ce film et l'aventure de ce chantier est fondé sur des faits réels et vraiment documenté. En revanche, lui, évidemment, j'ai fictionnalisé autour du destin de cet homme et de sa femme.
Alors effectivement, fictionnalisé, mais à partir de faits réels, comment on se documente, comment on prépare tout ça, combien de temps ça a pris, Stéphane ?
Je saurais pas dire combien de temps ça prend parce que les projets se mélangent et on n'arrive plus à le dire et puis il vaut mieux pas se souvenir comme ça a été long. Mais oui, c'est plusieurs années. Là, le gros, il y avait deux enjeux. Il y avait l'enjeu de restituer l'époque puisqu'on est au début des années 80 et en fait, moi, je m'en étais pas rendu compte, mais filmer au début des années 80 ou filmer dans les années 50, c'est la même chose. C'est-à-dire que tout a changé, on s'habille pas pareil, les voitures sont pas les mêmes, les rues n'ont pas le même mobilier urbain. Donc, chaque plan, en fait, on est obligé de l'anticiper beaucoup plus quand on fait un film contemporain. Et ça, c'est quelque chose que j'avais jamais expérimenté et qui est pas inintéressant, mais qui a des implications. Et puis, l'autre gros enjeu, c'était de raconter le chantier. Parce que c'est un moment, un bâtiment qui sort de terre, un bâtiment d'une échelle plus que vaste. Et il fallait éprouver ce gigantisme. Il fallait qu'on éprouve avec le personnage de Spreckelsen le vertige qu'il a presque devant l'œuvre qui sort de terre. Et pour ça, il fallait trouver des solutions et qu'on a essentiellement travaillé autour d'images archives, puisque c'est un projet qui était extrêmement documenté. Donc il existait des photographies qu'on a animées. Plutôt que de tout recréer à partir de zéro, on est parti d'images préexistantes, de photographies préexistantes, et qu'on a animées, dans lesquelles on a mis nos protagonistes. Et ça marche assez bien, et ça nous permet, avec un budget qui reste un budget film d'auteur, de réussir à avoir ces plans qui rendent compte de ce qu'était ce chantier.
Le casting.
Le rôle principal, c'est Claes Bang, qui est donc un Danois, puisque je tenais à ce que ce soit un Danois qui est le rôle principal, puisque je croyais que ça n'était Danois, et que ça, c'est quelqu'un qui arrive avec sa culture, avec son regard, avec sa sensibilité de Scandinave et qui déboule à Paris où tout est différent. Donc je tenais à ce qu'on respecte ça. Et j'aimais bien Spreckelsen qu'on avait vu dans The Square notamment. C'est là qui s'était révélé. J'aimais bien Claes Bang parce que déjà il est géant, il est immense et donc il est immédiatement hors d'échelle ou il est immédiatement pas en adéquation avec les gens qu'il a en face de lui. Et je trouvais que ça racontait déjà quelque chose du destin de ce type qui, quand il s'est retrouvé précipité à Paris, a eu du mal à faire entrer son cube dans l'imbroglio juridico-politico-administratif français. Et puis voilà, après, il y a autour de lui, j'ai mis des personnages qui agissent surtout par contraste. Donc il y a Xavier Dolan qui joue un haut fonctionnaire et avec son énergie, il est comme un trublion autour d'un Claes Bang qui lui est beaucoup plus granitique. Il y a Michel Faux qui joue Mitterrand, une évocation de Mitterrand, parce que je ne sais pas d'imiter, mais Michel Faux, il a toute la distance presque aristocratique qu'avait Mitterrand. Il a réussi à restituer ça, je trouve, à merveille. Et il évoque Mitterrand alors qu'il ne joue pas la ressemblance, c'est assez sidérant.
Oui, ni l'imitation.
Voilà, ni l'imitation, exactement. Il ne joue pas l'imitation, ni la parodie, et pourtant, on éprouve Mitterrand. Il y a Swann Harlow, qui joue Paul Andreux, qui est l'architecte technicien, puisqu'il était ingénieur, Paul Andreux, qui est venu en aide à Spreckelsen pour la mise en œuvre opérationnelle de ce projet. Et puis, dans ce monde où il n'y a que des hommes, il y a une femme qui est d'autant plus marquante que, par contraste, elle est seule. C'est la femme de Spreckelsen qui est jouée par Sitze Babette Knudsen. Et j'aimais bien faire appel à cette actrice parce qu'elle a beaucoup de tempérament et je trouve qu'à peine on la voit, on perçoit tout le caractère qu'elle peut avoir. Et il fallait bien ça pour être aux côtés de cet homme, Spreckelsen, qui était quand même un type qui croyait fort, dur et de manière tout à fait radicale dans ses idées.
Alors, c'est vrai que c'est un film, j'imagine, qui n'a pas dû être facile à monter. Est-ce qu'il y a des plans que tu redoutais un peu, Stéphane, ou pas ?
il y a, comme je dis, beaucoup de plans qui ont des gros enjeux d'effets spéciaux et qu'on a beaucoup pensé à l'avance avec ce que j'avais jamais fait, des storyboards, des choses comme ça, parce qu'on peut pas improviser.
C'est ça, ça se prépare, ça.
Ça se prépare, on peut pas improviser sur ces plans-là parce que ça a trop d'incidences techniques et donc financières. Mais il y avait un plan sur lequel j'avais pas de prise réelle et qui était essentiel, c'est celui qu'on a fait sur les Champs-Élysées. Ouais. À un moment donné, il y avait une polémique parce que cette arche de la Défense, elle se situe dans le prolongement de l'Axe Royal qui part du Louvre, qui passe par les Champs-Élysées, traverse l'Arc de Triomphe et file comme ça vers l'ouest. Dans cette ligne se trouve l'arche. Et ça avait fait monter une polémique qui avait commencé à inquiéter Mitterrand, et donc il a demandé à Spreckelsen, avant que le chantier ne commence, de faire une simulation pour figurer l'emprise qu'aurait l'arche dans cet axe. Donc Mitterrand s'est rendu un matin sur les Champs-Élysées avec Spreckelsen, et ils avaient érigé une toile à la place du haut de l'arche pour que Mitterrand puisse se rendre compte de cette emprise. Évidemment, pour tourner ça, on n'avait pas le choix, on n'avait pas du tout les moyens en images de synthèse, etc., ou en studio de refaire quoi que ce soit, c'était hors de prix, mais vraiment inaccessible. Il fallait qu'on tourne sur les Champs-Élysées, et on a eu accès. Ce qui n'était pas gagné, et ce qui est assez miraculeux, et je mesure ma chance. Pendant 3 heures aux Champs-Élysées, par un tronçon des Champs-Élysées qu'on a pu privatiser, il a fait beau. Or, c'était essentiel, puisque l'enjeu, c'était que Mitterrand tenait à ce que les reflets du soleil, la Grande Arche de la Défense, soient roses, parce qu'il aimait le rose, comme on le sait tous. Il a fait beau, on a eu les Champs-Élysées pendant 3 heures, on a fait venir un carrousel de voitures d'époque qui ont tourné autour de nos protagonistes. Et ça, c'était un moment assez magique parce qu'il s'est passé à merveille, mais c'est un moment qui nous avait donné pas mal de
sueur froide
en l'anticipant parce qu'on était sûr de rien.
Bon, en tout cas, vous allez pouvoir découvrir l'inconnu de la Grande Arche. Quand on voit aujourd'hui le monument que c'est un haut lieu aujourd'hui de l'économie française et parisienne, avec beaucoup de bureaux, beaucoup de travail, il y a beaucoup de gens qui travaillent à la Défense aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est chouette de découvrir en tout cas des vrais faits qui ont fait l'histoire en fait de cette Grande Arche, même de façon fictionnée, mais en tout cas, vous allez pouvoir le découvrir mercredi dans les salles. Stéphane, on prépare déjà la suite ou pas ? Est-ce qu'on a déjà des films un peu dans les starting blocks pour les deux trois années à venir ?
Ouais, il y a un film qui est l'adaptation d'un livre qui s'appelle La Chaleur de Victor Gestin, qui est une histoire d'adolescent très contemporaine. Tout se passe dans un camping au bord de la mer avec une dominante de thriller sur ce film, donc qui n'a strictement rien à voir avec L'inconnu de la Grande Arche, mais le plaisir, c'est de passer d'un projet à l'autre avec tout ce que ça peut comporter de différence, justement.
Avec des thèmes, justement, totalement différents. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été avec nous. On va se quitter avec la bande-annonce L'inconnu de la Grande Arche. C'est mercredi au cinéma. Nouveau film de Stéphane de Mousty à ne pas rater. Merci beaucoup, Stéphane.
Merci à vous.
Et à bientôt.
À bientôt, j'espère.
Monsieur le Président de la République.
Alors, qu'en pensez-vous ?
C'est très beau. Qui en est l'architecte, monsieur le Président ?
Vous demandez à Subilon pour le savoir.
Monsieur, vous avez remporté le concours de la Défense !
Boum ! Qu'avez-vous construit dans votre carrière ?
Ma maison et 4 églises.
Le Président veut que nous inaugurions en même temps que le bicentenaire, ce qui nous force à aller vite. Alors allons vite et faisons bien.
C'est tout à fait concluant.
Boum a voté à 1,3 milliards.
Subilon est l'homme des maisons.
C'est son valet.
Subilon m'a informé que vous travaillez avec Andreu.
Je suis très heureux de rencontrer l'homme qui a mis d'accord toute une profession.
Quand j'ai conçu Roissy, j'avais 29 ans. Plus d'une fois, je me suis demandé si j'étais pas un imposteur.
Allez, ne bougez pas dans un instant. L'équipe de Ness et Ryan, Clémence Lassalas pour Un crime presque parfait. La bande d'Alex Hugo, Thierry Petit et Mickaël Fitoussi débarque dans Chut, on écoute la télé. À tout de suite.
Bouge pas. Chut, on écoute la télé revient dans un instant. À tout de suite. Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé.
En partant du même regard qui nous appelle. C'est parti pour un tour du crépuscule au point du jour. Les maîtres du jeu. Nous on est là encore, on en veut plus, toujours plus fort.
Sous-titrage Société Radio-Canada.
rendez-vous des stars. C'est Chute, on écoute la télé, votre talk show radio. Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, c'est l'événement. Ce soir, vous allez découvrir le pilote d'une toute nouvelle fiction, un meurtre presque parfait avec Clémence Lassalas, qu'on a grand plaisir à retrouver. Bonjour Clémence.
Bonjour.
Merci d'être là. Alors ce soir, on va découvrir Pika, justement, qui est l'assistante d'une auteure de romans à succès, vous allez voir. En tout cas, c'est une nouvelle aventure pour toi et on est bien content. Après Charlie Molina, où t'as marqué les esprits, hein, je crois qu'on peut le dire, dans Demain nous appartient, c'est une nouvelle aventure qui démarre.
Oui, ouais, complètement. Nouvelle aventure, nouveau projet et super projet surtout.
Avec un duo incroyable, avec Claire Kame quand même.
Voilà, donc ouais, quand j'ai su que j'allais tourner avec elle, justement, moi j'ai toujours été fan d'elle. Je trouve que c'est une nana qui dégage vraiment un truc hyper solaire. Et du coup, création d'un nouveau duo, quoi. Donc vraiment très très cool.
Alors on est dans quel domaine ? Enquête policière, comédie plutôt, policière ?
En fait, c'est un moyen un peu détourné. Ils ont gardé de l'enquête. C'est sur la base quand même d'un crime qui va se passer, mais de manière un peu détournée. Et c'est vraiment une comédie en fait. C'est une série d'enchaînements un peu de gags et de sketchs, mais avec un fond de crime, quoi.
Alors, comment tu pourrais nous définir Pika, justement ?
Alors, Pika, moi, j'aime à dire que c'est l'équivalent féminin de François Pignon du Dîner de cons. C'est un personnage. Mais qui est pas bête nécessairement, mais qui est plutôt assez naïf et un peu ravi de la crèche, si je puis dire. C'est une nana qui est finalement très positive, très solaire, qui a peur de rien.
Et ça donne un peu le évidemment la comédie avec le personnage de Claire Kame qui est totalement à l'opposé.
Ah oui, c'est ça. C'est Claire Kame, elle joue cette écrivaine qui est extrêmement froide, un peu hautaine. Je dirais presque l'équivalent de Charlie que j'étais dans DNA. C'est très marrant.
Ah oui, alors ça c'est drôle de te retrouver face à un personnage au caractère quasi identique à celui que t'as proposé pendant des années.
Bah complètement, et c'est surtout que moi j'étais plus habituée en plus des rôles souvent un peu de nana pas très sympa, méchante, que j'avais l'impression de plutôt bien maîtriser. Et du coup, quand je voyais que c'était elle qui jouait ce personnage là et moi jouais plutôt quelqu'un justement de très sympa, j'avoue que j'ai eu un peu de mal au départ. J'avais peur de pas être crédible.
Alors, est-ce que justement cette aventure marque aussi un tournant dans ta carrière ?
Je pense, j'espère. Du moins, je l'espère, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un film qui, moi, m'a, à titre personnel, m'a permis de me libérer sur plein de trucs, parce que justement, c'est comme avec ce personnage-là qui est très sympathique et solaire. Là, du coup, c'est ce à quoi moi je tends à aller. Mais au niveau de ma carrière, ce que j'espère, c'est que justement, si ce film plaît, il a été dit que normalement ce
ça
film
pourrait devenir une collection.
Exactement. Donc ça pourrait justement être un lancement d'une nouvelle aventure pour moi.
Alors même s'il y a eu beaucoup de comédie, hein, mine de rien pour le personnage de Charlie quand même, il y a eu des moments de comédie quand même assez anthologiques. Ça fait du bien de jouer une pure comédie, enfin de jouer un personnage qui est dans la pure comédie.
Ah oui, non, complètement. Mais
manquait ça.
En fait, c'est pas que ça me manquait, c'est que je pensais surtout que moi j'en étais pas capable. Enfin, c'est bizarre, la comédie autant le drame j'aime beaucoup, mais la comédie pure comédie, parce que là vraiment le film c'est vraiment de la pure comédie, donc c'est une question de rythme, de timing, etc. Moi j'avais l'impression, j'avais peur de pas en être capable, et du coup c'était un beau challenge, et ouais non, c'était trop cool à faire, et finalement je me suis dit ah mais je crois qu'en fait je suis un peu drôle.
Alors ce qui est marrant, c'est que moi qui te connais quand même depuis quelques années, j'en aurais pas douté une seconde, moi.
C'est vrai? Ah ouais, non mais c'est moi, tu vois, je sais pas.
Je suis sûr que t'as des ressorts comiques à jouer qui peuvent être totalement délirants.
Ah ouais, non, je pense que bah justement en fait c'est dans ce film là je me suis découverte. En vrai, je me suis vraiment découverte un... Bah ouais, genre vraiment, j'aime beaucoup la comédie, quoi, et franchement, j'adore ça.
Et la rencontre avec Claire Kame, alors vous avez certainement des scènes un peu anthologiques. Est-ce qu'il y en a une qui ressort en particulier, là ?
Il y a une scène qui est assez mémorable, sans vouloir trop spoiler, mais en fait, elle me fait trimballer une glacière depuis le début du film. Et en fait, à un moment, on va découvrir ce qu'il y a dans la glacière. Je ne vais pas le dire parce que je vous laisserai découvrir ça. On va dire que c'est une partie d'être humain. Quand j'ai découvert le truc qui était tellement bien fait, moi, j'ai eu une crispation, en fait, mais parce que je l'avais jamais vu vraiment avant qu'on tourne la scène. Et en fait, elle a vu ma tête. Enfin, c'était impossible de ne pas rigoler. Enfin, c'était vraiment, c'était super, quoi.
Les projets pour toi, Clémence?
Bah du coup justement, j'attends de savoir un petit peu si ce projet va finir en série ou pas. Et pour l'instant, après moi je me focus surtout, je bosse aussi en production, donc plutôt produire mes propres projets.
Ah ouais, ça peut être sympa aussi.
Ouais. Non, complètement, faire les choses que j'aime.
Bon, il y a eu quelques rumeurs qui disaient que peut-être Charlie Molina pourrait revenir pour une intrigue événement. Est-ce que c'est dans les tuyaux ou pas du tout ?
Pas pour l'instant, non.
C'est pas définitivement fermé, mais pour l'instant, c'est pas l'heure du jour.
Honnêtement, je serais jamais fermée parce qu'en fait, c'est ma famille de cœur et que je les aime d'amour. Mais là, à l'instant T, j'essaye de faire autre chose. Et un jour, ouais, j'adorerais y retourner, mais pas pour l'instant.
En tout cas, là, c'est un meurtre presque parfait que vous allez découvrir ce soir à 21h10 sur TF1 aux côtés de Claire Kem. Alors, il y a tout plein d'acteurs hein, autour de vous. Hein.
Ah ouais, y a, justement, c'est ça aussi qui était génial sur ce film, c'est qu'il y a vraiment des acteurs qui sont incroyables. Donc, il y avait Marianne Chazelle, Nicolas Briançon. Il y a un mec qui est génial, c'est aussi un chanteur qui s'appelle Esteban. Et Lionel Astier, pour qui je suis tombée en amour, si tu m'entends.
Que de beau monde, en tout cas. Merci Clémence d'avoir été avec nous. Et on a hâte d'être à ce soir, en tout cas, 21h10 sur TF1 et sur TF1+, évidemment, ensuite en replay.
Merci beaucoup.
Merci, à bientôt.
Ciao.
La grande Laure Mondo. Je suis très fier de toi, tu sais.
Même si j'ai pas choisi ta maison d'édition.
Pika,
mon assistante, en période d'essai.
Je vous jure, c'est pas moi.
Si j'écris des polars, c'est parce que je sais qu'on est tous capables de tuer. Et il y a quelques détails qui ne collent pas.
Si je comprends bien, il y a un assassin dans la nature.
Il n'est pas dans la nature, il est dans la maison. N'importe quoi.
Un meurtre presque parfait, une enquête où chaque détail compte. Ce soir à 21h10 sur TF1 et en streaming sur TF1+.
Et notre coup de cœur télé consacré à Ness et Ryan qui débarquent sur France 2. Une toute nouvelle série dont vous allez découvrir le pilote de cette nouvelle collection qui arrive avec aux manettes, justement, Julie Manou qui enquête avec nous, qui est notre invitée aujourd'hui. Bonjour Julie.
Bonjour Alain.
Merci d'être avec nous. Un des producteurs, justement, de cette fiction, Stéphane Kaminka, qui est avec nous. Bonjour Stéphane.
Bonjour Alain.
Merci d'être là, puis nos deux héros. Quel bonheur de vous avoir tous les deux. Nadia Rose, une habituée de l'émission. Bonjour ma chère Nadia.
Bonjour. Chut. J'écoute la télé.
Oui, je sais que tu l'écoutes régulièrement. Et puis le petit nouveau qui va faire sensation parce que d'une, il va vous faire beaucoup rire. On va s'attacher énormément à lui parce qu'on l'aime déjà. Ilyes Kadri. Bonjour Ilyes.
Bonjour Alain.
Merci d'être là tous les quatre. C'est une série qui fait du bien, même s'il y a des enquêtes, il y a beaucoup de soupapes, de rires. Il y a vraiment des beaux paysages en plus filmés en Charente-Maritime qui sont très très beaux. Où est venue la genèse du projet déjà? Qui a eu cette idée? Cette idée dingue.
Il a eu cette idée folle, un jour de faire naître Ryan. C'est ce sacré
Stéphane Kaminka. Vous allez voir, il y a beaucoup de musique, beaucoup de chansons. Nadia chante beaucoup dans Ness et Ryan. Stéphane.
Ah oui, ça, elle chante beaucoup. En fait, on s'était dit que c'était une bonne idée de faire autre chose que deux flics. On voulait un programme du vendredi soir avec du polar et des personnages, mais voilà, et l'idée de faire deux personnages très différents et d'avoir en fait un voyou et un flic nous est apparu comme étant une bonne idée. C'est comme ça que, après transformation, on s'est dit, en fait, ça va être un personnage qui va faire un travail d'intérêt général dans un commissariat, et ça sera encore plus drôle si ce personnage a dérobé le portefeuille de la flic, et que c'est pour ça qu'il est condamné. Et donc, ils se retrouvent tous les deux à devoir collaborer alors que l'un a volé l'autre.
Et on va découvrir tout ça. Qu'est-ce qui t'a fait choisir, à la réalisation, pour le coup, Julie? Pourquoi Ilyes? Pourquoi Nadia? Ces deux-là t'ont séduit tout de suite? C'était un coup de foudre?
Oui, et du coup, les coups de foudre, c'est un peu difficile à expliquer, même si objectivement, on est face à deux très bons comédiens. Donc, à la fois, c'est des choix qui paraissent évidents, et en même temps, on sent aussi qu'il va y avoir une affinité humaine, qu'on va se comprendre, qu'on va avoir envie d'aller au même endroit, et puis qu'il y a une fluidité dans la façon de travailler. Quand ça coche toutes les cases, c'est facile de choisir.
Nadia, qu'est-ce qui t'a fait dire oui, toi?
Le cachet. Le salaire. Non, c'est le scénario, hein, à la lecture, le scénario. Ensuite, la découverte de Julie, de Ilyes, enfin de l'équipe tout autour. Mais c'est vrai que moi, j'ai lu le scénario d'une traite et en général, c'est plutôt bon signe quand on le lit, voilà, qu'on le dévore d'un coup et qu'on a envie de savoir la fin et que voilà, on rit, on sourit, on a envie d'être dans l'histoire. C'est plutôt bon signe. C'est ça qui m'a décidé. Ouais, moi, ça s'est fait assez vite et je suis bien contente.
Ilyes, toi qu'on a vu dans Mercato, aux côtés de Manon Azem et Arnaud Ducré il y a quelques mois sur TF1, toi tu débarques avec ce rôle de Ryan, qu'est-ce qui t'a plu chez lui?
Sa fraîcheur, c'est quelqu'un qui est toujours de bonne humeur malgré qu'il traverse des moments un peu compliqués. C'est quelqu'un qui aime bien rigoler, qui apporte de la bonne ambiance et c'est ce qui m'a plu dans ce personnage énormément.
Alors il faut dire que la rencontre entre les deux personnages est quand même très drôle, puisque Ness est tranquillement en train de siroter un petit cocktail à la terrasse sur un port quand elle se fait voler son portefeuille, de manière dont on vous dévoilera rien, puisque vous le découvrirez en regardant le film vendredi, par ce sombre histoire de fiante, puisque depuis, donc Ilyes, Ryan est surnommé la fiante, et vous comprendrez évidemment pourquoi, et évidemment Ryan va se faire attraper et condamné à des travaux d'intérêt général qu'il va devoir faire dans le commissariat où Ness, bien sûr, est, et c'est lui qui va la conduire. parce qu'elle, elle s'est blessée. Voilà. Et il va se passer tout plein de choses. Je crois qu'on en a dit assez, sans trop en dire, mais en tout cas, c'est comme ça que vont s'apprivoiser, je crois qu'on peut dire, ces deux écorchés vifs de la vie.
Oui, oui, c'est le mot. Ils vont devoir s'apprivoiser, collaborer. Ils sont enfermés dans ce petit espace qu'est la voiture parce qu'elle, elle s'est blessée à la main pendant une enquête. Voilà, il va lui servir de chauffeur comme il a été puni. Et donc, ils doivent cohabiter. Ils vont apprendre à se connaître. Ils vont d'abord s'affronter un peu, puis se charrier, puis s'adopter. Et c'est vrai que cette relation, elle est en parallèle avec la vraie vie, j'ai envie de dire, parce que c'est un peu, on a appris à se découvrir. Alors, on ne s'est pas affronté, mais on a appris à se découvrir et on s'est apprécié encore plus au fur et à mesure du tournage. Et c'est une belle amitié, je crois, qui est née entre nous. Et ça, c'est un beau cadeau. Donc, il y a par-dessus des belles audiences, on sera très heureux.
Et on va découvrir que Ness, évidemment, une histoire amoureuse compliquée, une histoire familiale pas beaucoup mieux, parce que il va y avoir un frère qui nous fait beaucoup marrer, évidemment, mais Ness, beaucoup moins.
Oui, c'est
ça. Il pourrait être surnommé le boulet, lui.
Oui, oui, elle se traîne littéralement un boulet qui est, alors lui, c'est pas un boulet qu'il a à la cheville, mais c'est un bracelet électronique. Et donc, oui, oui, ça lui crée des soucis dans sa vie à la fois professionnelle et personnelle. Mais c'est un joyeux boulet, c'est un boulet qu'on a plaisir à traîner parce que c'est Julien Ratel donc qui l'incarne et qui est drôlissime, qui est très généreux comme comédien, un super camarade. Donc,
ça va donner des scènes cocasses évidemment avec Ryan. Alors pour Ryan, c'est vrai que la vie n'est pas forcément facile. Alors il est un petit peu beau parleur quand même. Hein, je crois qu'on va le dire, la tchatch quoi.
Oui, c'est ça, oui, il a la tchatche, il arrive à sortir de situations parfois compliquées. Oui, c'est quelqu'un de très solaire. Mais moi, en fait, ce que j'aime vraiment chez lui, c'est qu'il a vraiment le sens de l'humour. C'est vraiment un personnage qui est là, qui prend l'espace, qui a l'autodérision, qui arrive à quand même à faire rire son entourage. Et c'était vraiment très plaisant de l'incarner, vraiment.
Il y a deux choses qui le caractérisent, hein, c'est l'humour et le flow.
Et le flow, parce qu'il rappe aussi.
C'est pas mal, c'est bien dit. Hein, ça.
Ouais, 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 c'est vrai que c'est bien dit. Ouais, il rappe un peu comme moi. Moi aussi, je rappe un peu.
C'est vrai?
Ouais. Je rappe un petit peu.
Et Nadia, attends, une impro. T'en as fait sur le tournage des impros ou pas, Aliès?
Des impros de jeu ou des impros de rap?
De rap?
Non, je suis resté. On est resté sur le texte, sur ce beau texte.
Même hors caméra, tu n'auras pas fait une petite impro de temps en temps?
Si, pour déconner,
je pense. Je savais bien que j'avais assisté à des choses, moi, sur le tournage. Bon, en tout cas, on va découvrir Ness et Ryan. On va suivre évidemment cet épisode pilote avec attention. On va écouter la bande-annonce et puis on revient juste après avec notre joyeuse équipe. À tout de suite.
Inédit sur France Télévisions.
Mais non.
Bah si.
Oh, qu'est-ce que tu fous là, toi? Je t'avais interdit de remettre les pieds ici.
Écoute, je t'ai trouvé un chauffeur qui est bien. Oh.
Ah non?
Et je préfère encore aller récurer les toilettes là que faire la poucave pour les flics, c'est mort.
Mais il est où mon fils? Pousse-toi là, il est où? Lâche-le!
Oh, les tiges avec vous, c'est plus dangereux qu'à peine de mort.
T'as une minute? C'est tes fringues, ça m'encombre.
Vous pensez qu'un jour j'aurai le droit?
S'il te plaît, Ryan.
Merci, Ryan. Ou c'est mort?
Je te rappelle comment on s'est rencontrés?
Qui s'assemble ne se ressemble pas forcément. Ness et Ryan, mercredi prochain, 21h10 sur France.tv et sur France 2.
Voilà, Ness et Ryan, la fiction à ne pas manquer sur France 2, on vous a promis de l'enquête, du rire, parce que c'est vrai que du rire, on rit beaucoup. On a eu la chance d'avoir cette fiction en avant-première et franchement, on a entendu le public beaucoup rire, donc on peut quasiment vous assurer une bonne soirée quand même vendredi.
Non, oui, après sur le tournage, tout s'est bien passé, il y a vraiment une sorte d'osmose entre moi et Nadia. Une super partenaire de jeu, donc on s'est bien amusé et je pense que ça se voit dans le film. Parce que Nadia est une superbe comédienne aussi.
Eh, hey, Nadia, t'as vu, hein, épisode 2, il le sent là.
Quelle lucidité chez cet acteur, quelle clairvoyance. Merci Iliès. Et puis ben, je ne peux que plus soyer et dire en plus que Iliès, au-delà de son énorme talent et de sa générosité, c'est un artiste très prometteur. Enfin vraiment, c'est vraiment très agréable de le regarder jouer. Et c'est que le début, vous allez voir, il va faire mal.
Ah oui, je sens que ça va donner, que ça va être de plus en plus dur de l'avoir pour la suite de Ness et Ryan, mais comme vous êtes hyper nombreux vendredi devant la télé, quand on a projeté le film en avant-première, Nadia, t'as été surprise parce que quand on tourne, c'est quand même assez abstrait, on voit pas les réactions du public tout de suite, et là, t'as pu sentir que ça rigolait à des endroits auxquels tu t'attendais pas, peut-être que ça rigolait pas à des moments où tu croyais que ça allait rire. On est toujours surpris, ça, de ces réactions?
Bah oui, 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 parce qu'il n'y a pas de recette, hein, quand on le dit souvent, il n'y a pas de recette. Et merci d'ailleurs d'avoir organisé ça. On a eu le plaisir de rencontrer des spectateurs donc au cinéma pour deux projections. Et oui, c'est un bonheur d'entendre la salle vivre au rythme de nos aventures, les rires auxquels on s'attendait pas, des aussi des petites réactions, des oh et des ah, voilà, qu'est-ce qu'ils sont mignons, qu'est-ce que c'est bien, qu'est-ce que on veut la suite. Enfin voilà, ça a été vraiment des chouettes rencontres. Et puis bah c'est rassurant, parce que nous on livre notre travail avec fébrilité et puis avec l'envie que ça vous plaise. Et apparemment, en tout cas ici dans le coin, ça a plu.
Stéphane, on imagine que évidemment quand tu germes un duo comme ça, t'as pas envie que ça s'arrête à ce premier épisode. C'est peut-être le début d'une belle histoire, d'une belle collection. T'es déjà instigateur du Crime Lui Va Si Bien, il y a eu 8 épisodes. On peut espérer en tout cas de même avenir à Ness et Ryan, mais t'as déjà plein d'autres idées pour une suite?
Ah bah oui, on en a plein, on veut faire 80. Donc j'ai déjà 79 idées plus le pilote. Oui, et puis après c'est aussi une aventure humaine, c'est que on a envie de se retrouver tout court, hein, au-delà des histoires. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est une œuvre collective, c'est des morceaux de puzzle qui s'assemblent, donc on a envie de remettre le puzzle dans la boîte, de le ressortir et de recommencer un autre puzzle, puis un autre puzzle. Je vais pas vous le faire 80 fois parce que ça serait long, mais donc oui, bien sûr.
Julie, toi qui as fait beaucoup de films engagés avec la cause des femmes, de l'écologie, avec Haut les mains il y a pas longtemps, Fille de paysan, Les vétos, là la comédie, c'est une soupape, ça fait du bien justement de réaliser une comédie.
Oui, la comédie c'est une soupape pour moi au quotidien comme spectatrice, et c'est un immense plaisir d'en réaliser. Je m'étais frottée un tout petit peu avant avec Haut les mains, et ça confirme le fait que c'est vraiment ce que j'espère continuer à faire, ouais.
Yes, ton papa est joué par un comédien que les téléspectateurs de Plus belle la vie connaissent bien, Rachid Afissa. Il est incroyable, on l'adore tous, franchement Rachid. Comment s'est passée ta rencontre avec lui?
Alors il faut savoir que Rachid, ça fait 3 fois qu'il joue mon père.
Non mais ça c'est énorme.
Ouais c'est vrai. Dans 2 courts-métrages, il a joué mon père et là dans ce film. Et c'est un comédien que j'apprécie énormément, très talentueux, très généreux dans le jeu. C'est quelqu'un qui est extraordinaire en tant que comédien, en tant qu'humain. Et ouais, c'était vraiment très très cool de le revoir et qu'il soit encore mon père pour la 3e fois.
Pourquoi il t'adopte, hein? Normalement, au bout de 4 fois, c'est un acte d'adoption directement.
C'est ça, tu vas devenir un Fedala. La petite référence la plus belle.
C'est devenu un ami et je l'apprécie énormément, vraiment.
En tout cas, le casting est super réussi. Vous allez voir Stéphane Debat qui est juste incroyable. Notre copine Laurie Bordesoul aussi, qui est géniale, qui a une petite apparition, mais qui, j'espère en tout cas dans le 2, aura encore une plus grande partition. Mais en tout cas, il y a un super cast, Julien Ratel, on le disait. Et puis Paulette, on va parler de Paulette parce que c'est un personnage à part entière. Sa coiffure est un personnage, son parler est un personnage. Paulette, c'est Paulette quoi.
Ouais, Paulette, c'est le rayon de soleil, c'est la fraîcheur et la naïveté de cette super actrice Salomé Diennismelien, que je trouve toujours d'une justesse incroyable, qui a un univers à elle. Enfin, je vais te laisser en parler, Julie. Mais
oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Moi aussi, je crois qu'on est tous très fans de Salomé, qui arrive à réunir la justesse et le décalage. Et c'est ça qui est précieux aussi avec elle, et une fraîcheur et à s'intégrer au groupe tout en ayant sa petite ambiance à elle, quoi.
On sent qu'il y a une alchimie entre Paulette et Ryan.
Oui, après moi j'apprécie. Non, mais c'est vrai, j'apprécie énormément Salomé. C'est je pense qu'il y a eu beaucoup assez d'éloges sur elle, mais j'en dis pas moins. C'est vraiment une comédienne extrêmement talentueuse et c'est devenu une amie. Et je m'entends très très bien avec elle. Salomé, je t'aime. Ah.
Bon, Stéphane, est-ce qu'on pourrait pas faire un couple Paulette Ryan dans les prochains épisodes? Même si pour faire durer le plaisir, faut pas que ça soit dès le 2e, mais un petit peu plus tard.
Il faudra me supplier, et si on me supplie gentiment, peut-être qu'on peut y penser, oui.
Bon, en tout cas, on va découvrir déjà ce pilote, ce premier épisode. Je suis sûr que vous allez être conquis, en tout cas, vous allez très vite vous attacher à Ness et à Ryan. Ça, c'est sûr et certain. Et Ness et Ryan, c'est déjà sur la plateforme France.tv, si vous n'avez pas envie d'attendre. Pour le voir, vous pouvez le voir en avant-première. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir été avec là. On salue aussi Jean-Pierre Alessandri, l'autre producteur à Mona Productions, qui vous accompagne en tout cas sur ce beau projet. Merci à tous les quatre.
Et merci.
Salut Alain, merci.
Bisous.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, notre coup de cœur télé consacré à Lex Hugo qui fait évidemment son grand retour pour un nouvel épisode inédit. Demain soir à 21h10 sur France 3, vous allez découvrir le nouvel Eldorado sous la houlette de Monsieur Thierry Petit qui revient dans notre émission. Bonjour mon cher Thierry.
Bonjour à vous et puis ravi de vous retrouver. Voilà, on va vous faire partager un inédit donc demain de Alex Hugo, plein de surprises, plutôt thriller que policier et donc plein de mystères et surtout nos personnages principaux bien entendu que vous allez retrouver et des nouveaux décors encore de montagne qui j'espère vous raviront.
Ça va être génial. Et on va découvrir particulièrement dans cet épisode que les apparences peuvent être parfois trompeuses. Michael Fitoussi est avec nous également, qui joue Renard depuis combien d'années, mon cher Michael, maintenant?
Bonjour à vous. Depuis le début.
C'est fou, plus de 10 ans d'histoire. Alex Hugo, c'est un succès, mais démentiel, quoi.
Ben, en fait, c'est ce que je pense. C'est-à-dire que quand on est acteur et on s'engage sur une série, d'abord, on a envie qu'elle soit bien. Donc, quand on s'y engage, on donne le meilleur de soi. Et puis, on espère toujours que ça marche et que ça continuera. Et quand c'est le cas, eh ben, on boude pas notre plaisir, quoi. Et moi, si on a encore, je continuerai parce qu'on continue encore à explorer nos personnages, à les mettre dans d'autres situations et à voir leur évolution parce que même nous-mêmes, comme on évolue au bout de 10 ans, nos personnages aussi. Et franchement, c'est un cadeau que de pouvoir continuer dans une série, à continuer en plus à avoir du succès. Donc, ça nous permet de pousser encore les limites et de garder nos personnages et d'offrir au public encore des nouvelles histoires. C'est cool.
Ça offre un certain confort de se connaître par cœur avec ses partenaires de jeu, de retrouver les mêmes décors, d'avoir une espèce de mécanique qui s'installe aussi.
Alors oui et non, parce que je trouve que le confort, d'abord avec ses propres partenaires qui sont maintenant évidemment des potes, hein, que ce soit Samuel, Fabien, on a quand même envie de se surprendre un peu quand même, parce que si on voit que l'autre est un peu trop dans ses pantoufles, je pense que le partenaire d'en face, il va essayer un peu de le bouger. Et puis voilà, il y a aussi un petit défi à toujours se relever, se relancer un petit peu et ne pas rentrer dans une redite ou dans des scènes qu'on a déjà faites. Donc déjà avec les comédiens, on a nos habitudes, c'est sûr, on est à l'aise et on a déjà nos réflexes. Mais par contre, et puis après de l'autre côté, on reçoit souvent des guests, tout le temps des guests. Et puis là, c'est aussi des nouveaux défis parce qu'on reçoit toujours des très bons comédiens et ça nous permet justement de jamais rester dans une zone de confort et de jamais se dire voilà, ça, j'y vais tranquille, quoi. On y va jamais tranquille sur Alex Hugo. On y va et on sait qu'on a une journée à sortir, aussi bien dans le jeu que dans le contexte. Faut sortir quelque chose de dynamique avec une belle énergie.
C'est chouette de se remettre tout le temps justement en cause et en piste comme ça sur une série. Et Thierry, alors beaucoup d'épisodes ont été réalisés souvent par Pierre, hein, Isoard. T'arrives dans cette aventure, tournage en montagne, est-ce que ça peut faire peur des fois?
Non, à aucun moment, c'est juste le désir d'aventure pour nous, notre métier. Il n'a pas de limite, donc notre objectif c'est de découvrir des lieux, des gens, et la montagne est tellement un lieu singulier, tant au niveau des paysages qu'au niveau des gens, au niveau de l'ambiance, au niveau de la météo, au niveau des risques que ça comporte. Donc c'est de l'aventure pure et dure. Donc voilà. Après, ça fait 5-6 épisodes que je fais, donc maintenant je commence à être plutôt rodé et bien connaître la montagne, même s'il faut toujours s'en méfier, quoi.
Et l'équipe, oui, c'est vrai que la montagne peut être souvent imprévisible. Michael, celui qui n'aurait jamais vu Alex Hugo, qu'est-ce que tu auras envie de lui dire sur Renard, par exemple? Comment tu le présenterais, toi?
Renard, c'est un personnage qui a connu, en fait, la montagne et une police différente de la sienne dans laquelle il évolue à Marseille, donc bourré de violence, de brutalité. Et donc, du coup, ces escapades qu'il fait à Lusagne et cette rencontre avec Alex Hugo, on a fait un personnage qui est d'abord épris de justice, ça c'est sûr, mais qu'il a un petit peu adouci et il a beaucoup appris au contact d'Alex Hugo, donc il est de plus en plus à l'écoute voilà. Et puis Alex,
sacrée évolution dans ton personnage depuis le début, hein.
Ouais, il y a une belle évolution, mais c'est ça qui est hyper plaisant, c'est-à-dire qu'au départ ça devait être c'était un peu un chien fou, un cow-boy, et puis j'aimais arriver et ouvrir les portes comme dans un saloon, quoi. Arriver avec une énergie qui était différente de la leur.
Steve McQueen, quoi.
Ouais, voilà, c'est un plaisir de gosse, quoi. Donc fallait y aller à fond, quoi. Fallait l'assumer qu'on était dans des saloons et dans ce genre. Et j'aimais amener une énergie et un rythme différent de ceux d'Alex ou d'Angelo ou de Leblanc. Et de confronter un petit peu ces deux univers, et à force il en a pris un peu le pli aussi de ces personnages qui sont remplis d'humanité, qui sont beaucoup à l'écoute, alors que lui c'est quand même quelqu'un de rugueux et un flic, voilà, comme on a un peu plus l'habitude d'en voir, mais qui va évoluer. Et puis surtout quand il va craquer, parce que c'est un métier difficile, quand Alex Hugo a craqué, ben il a tout quitté, il est monté et il est parti à la montagne. Ben quand ça arrive à Renard et quand il se réfugie un peu dans l'alcool pour essayer de passer un peu ces choses dures qu'il voit au quotidien, eh ben c'est Alex Hugo qui va lui tendre la main et qui va le mettre dans un refuge, dans un épisode très beau qui s'appelle La Dernière Piste, et qui va l'aider à se sevrer et aussi à ravaler un peu ses rancœurs de vengeance. Et un épisode qui parlait de rédemption et de voilà. Donc au contact d'Alex, ça devient un homme de plus en plus, j'allais pas dire bon, mais qui fait son métier avec beaucoup plus d'humanité en fait.
Il y a justement, c'est ce que j'allais dire, il y a une profonde humanité dans tous ces personnages. C'est vraiment la particularité de cette série. C'est ce qui en fait certainement aujourd'hui peut-être une des séries les plus regardées de France Télévisions, et c'est bien mérité. Thierry, dans cet épisode, il va être question de disparition.
Oui, on a deux personnes qui partent en randonnée sur un peu un coup de tête. C'est aussi un peu l'arrière-plan de cette histoire, c'est de parler de la montagne et de ses dangers. Il s'avère qu'aujourd'hui, on a des gens, de plus en plus de touristes vert, de plus en plus de gens qui partent à la montagne, qui prennent des risques inconsidérés, sans s'informer. Voilà, donc on avait envie de traiter ce pan d'histoire et surtout prévenir les gens. Voilà, la montagne, c'est quelque chose de très dangereux. On part pas comme ça à l'aventure. Et donc, c'est le point de départ de cette histoire qui va se faire miner, bien sûr, sous une forme de tragédie, forcément.
En tout cas, il va y avoir quand même un mini-événement hein, dans la prochaine saison d'Alex Hugo, dans les épisodes qu'on verra bientôt aussi, c'est que Samuel va réaliser un épisode. Est-ce qu'il t'a demandé un peu des conseils, Thierry, justement? Est-ce qu'il en a discuté un petit peu avec toi avant de se lancer dans cette aventure dingue?
Bah, disons que c'est quelque chose qui lui trotte dans la tête depuis pas mal de temps. Donc, quand on est sur le plateau, il est toujours à questionner, à essayer de comprendre pourquoi, comment, quel choix d'objectif, pourquoi ce type de mise en scène.
Il s'intéresse clairement à la technique.
Ouais, il s'intéresse depuis quelques années à la technique, effectivement. C'est quelque chose qu'il a dans la tête depuis quelques temps. Donc maintenant, ça va se réaliser pour lui. Et bon, moi, je lui souhaite le meilleur, forcément, quoi.
Évidemment, c'est une belle aventure. Et puis réalisateur, toi aussi, Mickaël, ouais. Parce que t'as fait un court-métrage.
Ouais. J'ai co-réalisé avec mon frère Grégory un court-métrage qui est très personnel, une histoire qui parle de la filiation de père et fils, et qui parle de mémoire et donc d'oubli. C'est un film qui nous tient beaucoup à cœur et qui, en ce moment, part dans tous les festivals. On a co-réalisé, on joue tous les deux dedans, et c'est le début d'une aventure pour moi, parce que la réalisation, c'est voilà, à côté d'un réalisateur comme Thierry. Je peux le dire, quoi. C'est vraiment quelque chose d'ultime dans notre métier, de tout créer. C'était passionnant. J'en garde un souvenir impérissable et ça va me donner beaucoup d'envie de continuer.
Et de faire un long, peut-être?
Oui, on prépare un long avec Grégory, ouais.
Génial, les deux frères Fitoussi. Dans la même aventure, à mon avis, ça va donner quelque chose de chouette. Le nouvel Eldorado, en tout cas, eh bien, c'est l'épisode à ne pas manquer. C'est demain soir à 21h10 sur France 3, juste après votre feuilleton à Six Grands Soleils. C'est à ne pas manquer, évidemment. Merci Thierry, merci Mickaël.
Merci Alain, merci à vous.
Merci à vous.
Et à bientôt.
Avec grand plaisir.
À bientôt, avec plaisir. Merci.
Déjà sur France.tv.
Donc a priori, Léna et Clément se dirigeaient sur le sommet des Anges. Mais hier, on a trouvé un sac à dos et une arme qui a été utilisée.
Disparition d'un couple de randonneurs pour le retour d'Alex Hugo. Inédit, Alex Hugo revient sur notre plateforme et mardi 4 novembre à 21h10 sur France 3.
Allez, vous adorez Jordan, dans Demain nous appartient, son interprète Maxime Lélu nous rejoint dans une poignée de secondes et on terminera l'émission avec Christelle Oscar, la directrice artistique du festival du film de Sarlat. À tout de suite.
Bouge pas, chut, on écoute la télé, reviens dans un instant. À tout de suite. Chut, on écoute la télé, c'est aussi en live sur onécoutelatélé.com et sur la page Facebook Chut, on écoute la télé.
Allez, je vous partage mon petit coup de cœur du moment. Elle s'appelle Jeanne, elle est en train de faire la Star Académie, mais elle avait sorti un titre bien avant qui s'appelle Respire fort, que je vous partage maintenant dans Chut, on écoute la télé.
Figé au milieu de la foule, j'étouffe, mais tout le monde s'en fout. Chacun ses névroses et ses doutes, chacun respire ou bien s'essouffle. J'ai essayé de prendre l'air, enlever les ongles de ma chair, mes pensées dans une cage en fer. Dans mes poumons, y'a comme du verre. Je respire fort pendant qu'il s'endorme. Je perds le la fête. J'étouffe, je suis pas encore prête. Je suis perdue dans leurs cigarettes. Je plane au-dessus de leur planète. J'ai essayé de plus penser, me rendre sourde et puis danser. Laisser l'élan me guider. Mais j'ai peur, je sais pas où je vais. Et quand tout redescend, ce sont si futiles. Vide. Mais ça reprend encore et je respire fort pendant qu'ils s'endorment. Suis-je en retard de réfléchir trop fort? J'angoisse à mort et je respire fort pendant qu'ils s'endorment. Je perds le nord, mais que fait mon corps? Il brûle encore. J'angoisse à mort. Suis-je en tort de réfléchir trop fort? J'angoisse à mort et je respire fort. Le niveau de l'or, vais-je éclore ou fléchir encore? Si j'angoisse à mort, à tort.
Tous les bonus audio et vidéo de votre émission sur onécoutelatélé.com, sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Chute, on écoute la télé. Chut, on écoute la télé, le talk show radio. Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, notre coup de cœur télé consacré à demain nous appartient. Évidemment, vous suivez votre série du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Et on a le rôle de Jordan pour la première fois dans Chut, on écoute la télé. On est très heureux de recevoir Maxime Lélu. Bonjour Maxime.
Bonjour Alain, je suis très heureux d'être là.
Merci d'être avec nous. C'est un carton, demain nous appartient. Et c'est vrai qu'on voit le personnage de Jordan tiraillé entre Violette et Judith. C'est terrible ce qui lui arrive.
C'est terrible et en même temps c'est quelque chose que, auquel plein de gens sont confrontés. Finalement, la vie de tous les jours, ça peut créer ce genre de situation. C'est terrible mais c'est très intense et je pense que ça va l'aider à grandir, à évoluer, c'est ce genre de situation. Et donc son cœur chavire un peu dans tous les sens. Et surtout, il est un peu à un point mort et il ne sait pas trop ce qui peut se passer. On verra ce qui va en découler de tout ça.
Alors c'est vrai que le retour de Judith n'est pas de tout repos en cette rentrée entre le séisme qui vous a rapproché. Évidemment, Violette n'a pas vu ça du tout d'un bon œil. Et c'est une histoire d'amour du coup qui est en train de vaciller. Mais il y a un retour de flamme quand même avec Judith qui est quand même là.
Tout à fait, mais avec cette menace entre guillemets qui plane de son retour aux États-Unis. Donc en fait, il y a quelque chose de l'ordre de l'arrêt. C'est le moment du questionnement. Il faut qu'il se pose les bonnes questions. Il a sa famille pour ça. Et ça, c'est vraiment... ils sont d'un énorme soutien. Donc il va pouvoir trouver dans tous les cas énormément de réconfort et de soutien. Donc il va forcément faire le bon choix pour lui. On va voir ce qui se passe maintenant.
Quelque chose de très romanesque dans ce couple. Exactement. De Judith et Jordan. Non mais c'est vrai, il y a quelque chose de tellement romanesque et de romantique entre vous deux.
Ça revient toujours un petit peu à cette chose là c'est je pense son premier vrai coup de cœur. C'est des amours adolescents, on sait tous ce que c'est. Donc elle a marqué son esprit et en même temps Violette n'est pas n'importe qui non plus pour lui. Donc j'aimerais pas être à sa place, ça c'est sûr.
C'est aussi le grand frère protecteur, Jordan.
Complètement. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est à la fois le grand frère protecteur et à la fois il trouve lui-même de l'appui chez ses deux petits frères qui sont très matures pour leur âge, qui sont pour lui aussi d'un énorme soutien. C'est vraiment des vases communicants. Donc c'est une famille très soudée. Il a pas que cette place de je donne des conseils et venez vers moi si vous avez des problèmes. Lui-même va trouver énormément de soutien chez ses petits frères et petites sœurs. Donc c'est intéressant.
Il y a vraiment quelque chose qui soude vraiment cette famille de Charlotte Gassiot dès qu'elle est arrivée. Comment t'es expliqué justement que tout le monde se soit attaché très vite à cette famille?
Écoute, sans vouloir aller trop loin dans les détails, on a quand même une famille qui sort un petit peu du lot au moins au départ quand elle est arrivée, avec cette maman célibataire avec des problèmes d'argent. Sur Demain nous appartient, c'est vrai qu'on dépeint un quotidien peut-être plus... On a le quotidien et la vie de chirurgien, d'avocat, de policier. Et là, on avait une petite famille qui qui était en galère, et je pense que du coup, bah évidemment, peut-être que ça a fait résonner chez certains aussi, une famille un petit peu plus populaire et à qui on peut s'attacher peut-être un petit peu plus vite parce qu'on a des problématiques qui sont plus communes. Et donc c'est vrai que c'est allé très très vite, et même de notre côté d'ailleurs, on a eu la chance de cette rencontre était assez bouleversante parce que on se connaissait pas du tout, et en fait ça allait très très vite entre nous. Donc je pense que c'est ça aussi qui font, je pense qu'on ça se sent qu'on s'apprécie énormément. Donc
avec Juliette et Dimitri, on sent vraiment une alchimie entre vous trois.
Moi je sais que c'est une vraie rencontre. Juliette, je la surnomme toujours la petite sœur que j'ai jamais eue et que j'aurais toujours voulu avoir. Dimitri, c'est une relation aussi extrêmement fraternelle. Il a presque l'âge de mon réel petit frère. Donc il y a vraiment, d'ailleurs eux deux s'entendent très très bien puisque maintenant on participe à la vie de famille de chacun, on se connaît tous, on s'est tous présentés, les mamans, les papas, donc ils font vraiment partie de ma vie et même dans ma vie personnelle, ils sont d'un énorme soutien.
En parlant de ta vie personnelle, ça c'est quelque chose qui a dû sacrement changer dans ta vie, c'est le regard des gens, parce qu'à partir du moment où t'es arrivé dans la série, j'ose imaginer la première fois que t'es apparu à l'écran et puis que t'es sorti dans la rue, ce qui s'est passé.
C'est quelque chose, c'est un petit peu dur de s'y habituer au départ, on comprend pas tout à fait, puisqu'on est sur un programme qui est quotidien, donc en fait on se rend compte qu'on est dans la télé des gens tous les soirs, et ça crée une proximité avec eux, où au départ on n'est pas prêt à ça, on nous appelle par les prénoms de personnages, enfin, on a l'impression de disparaître, Maxime disparaît un peu derrière le personnage.
C'est difficile, hein, un peu pour toi?
Bah, pour moi, oui. Après, voilà, à titre personnel.
Je préfère quand on t'appelle Maxime dans la rue. Bah,
dans l'idée, oui. Après, je comprends totalement que les gens n'aient pas ça. Mais c'est vrai que c'est un petit peu, sans employer trop de grands mots, ça peut être un peu bousculant, violent à des moments quand ça s'enchaîne. Ou alors, on a tous des moments où, voilà, on est un petit peu fatigué et qu'on s'attend pas, ou qu'on est en famille, qu'on est avec des amis et qu'en fait, il y a des gens qu'on remercie tous les jours d'être là. Hein. C'est pas le souci. Mais c'est vrai que c'est assez, en plus, quand on est jeune et que c'est notre premier projet, c'est vrai que ça fait un peu bizarre, mais c'est que des gens bienveillants et très gentils, et c'est un échange, donc c'est très agréable à vivre aussi.
Ça te permet de faire d'autres choses? Est-ce que tu as pu aussi enchaîner quelques projets là cette année?
Complètement, ça a débloqué plein de choses, notamment sur mes projets musicaux personnels. Je peux enfin travailler sur un vrai projet, notamment parce qu'il y a une communauté qui écoute ce que je fais et donc qui met en confiance des potentiels producteurs de musique, donc en fait grâce à eux je peux aussi lancer ce projet là et il y a différents tournages qui vont arriver dont je peux pas forcément parler, mais du coup effectivement d'en rentrer dans la famille, la grande famille TF1 qui travaille sur plein d'autres projets. En fait, on a l'occasion de travailler sur d'autres choses et dans d'autres contextes, quoi.
Bon courage à Jordan en tout cas, et puis Maxime en tout cas, nous on est très contents d'avoir pu passer ce moment avec toi, et puis on te dit à bientôt, j'espère.
Ah oui, merci de m'avoir reçu et à très vite.
Chute, on écoute la télé, spécial festival.
Allez, comme d'accoutumé, on va terminer cette émission avec Christelle Oscar, la directrice artistique du festival du film de Sarlat, qui est avec nous en ligne. Bonjour Christelle.
Bonjour Alain.
Bon, on est à la veille de venir te rejoindre du côté de Sarlat pour une semaine de cinéma, encore une fois, du cinéma de qualité, des avant-premières, une compétition, une sélection autour du monde, du hors les murs, des rencontres professionnelles, et puis surtout un programme lycéen très riche, encore une fois. Cette année, le festival de Sarlat s'inscrit encore plus que jamais comme le festival des lycéens aussi.
Oui, tout à fait. Plus que jamais, il nous paraît quand même essentiel d'activer et d'essayer de régénérer au maximum ce désir de cinéma qui est plus que présent chez ces jeunes lycéens qui sont en terminale, qui ont choisi une spécialité cinéma et audiovisuel pour passer le baccalauréat. Donc on se concentre tout particulièrement sur eux pour essayer de réactiver ou d'activer une petite flamme et de souffler dessus et de faire que le cinéma un jour les accompagne dans leur vie, que ce soit dans leur vie personnelle comme un hobby et pourquoi pas dans leur vie professionnelle.
Oui, parce que le festival de Sarlat crée beaucoup aussi, on va dire, de futurs métiers et d'envie chez eux. Ça leur montre aussi beaucoup de facettes du métier. Et il faut dire que ces lycéens qui sont dans des classes cinéma un peu partout en France, eh bien, ça les engage encore plus, je pense, à vouloir faire ce métier quand ils voient un festival comme celui-là.
Exactement, ils sont à la fois, ils deviennent de vrais spectateurs, des spectateurs actifs, puisque on fait le maximum pour qu'ils rencontrent le plus d'équipes possible. Donc tous les films de la sélection officielle qui font partie du parcours, je mets des guillemets, obligatoire des lycéens qui viennent au festival, puisqu'ils déterminent un prix aussi, ça fait partie un peu de leur engagement. Tous ces films-là, donc les 8 films de la sélection officielle, sont accompagnés d'équipes. Ce sont vraiment des moments dédiés pour les lycéens qui ont après l'occasion d'échanger et de poser toutes les questions qu'ils souhaitent aux équipes. Donc ils sont dans la peau de spectateurs impliqués déjà. Et puis après, le festival leur propose à la fois un programme pédagogique pour continuer leur année scolaire et l'approfondir autour du film du bac. Ils peuvent aussi assister à des ateliers avec des professionnels qui viennent leur parler de leur métier. Donc cette année, il y a 6 ateliers. Scénario, maquillage, montage, réalisation. Tous les ans, de nombreux professionnels viennent au devant des lycéens pour répondre à toutes leurs questions. Il y a les fameuses petites séquences qui les met vraiment dans la peau. Là, d'équipes de tournage où ils ont l'occasion de réaliser des petits cours de 3 minutes, ils tournent dans ça là, ils montent et ils projettent leur film sur les 5 jours du festival. Donc ils peuvent être, je suis pas exhaustive, mais ils peuvent être à plein d'endroits, connectés, offerts ou au voir.
Moi, ce qui me frappe à Sarlat, chaque fois que j'y vais, c'est qu'on sent chez eux cette envie, cette bienveillance, cette solidarité entre eux, cette ambiance qu'ils mettent dans les rues de Sarlat. Et c'est vrai qu'un festival sans les lycéens à Sarlat, ça serait plus le festival de Sarlat. On sent vraiment, en tout cas, qu'ils font partie intégrante de ça. Et on sent vraiment, en tout cas, qu'entre eux, il y a vraiment une passion qui les anime, un peu à l'image de la Star Academy, par exemple. C'est la musique qui les réunit. Mais là, c'est vraiment la passion de l'image du cinéma qui réunit tous ces jeunes qui sont là.
Oui, c'est vrai. En plus, ils viennent, faut pas l'oublier, ils viennent de toute la France. Il y a quelque chose comme, je crois, 120 classes d'audiovisuel en France, donc qui ont la spécialité cinéma, c'est des classes de terminale. Et sur ces à peu près 120 classes, on en accueille une petite trentaine. Donc, ils viennent de partout. Ils viennent de l'Est, ils viennent du Nord, ils viennent de la région parisienne. Évidemment, ils viennent de Nouvelle-Aquitaine. Il y en a qui viennent de Montréal. Il y en a qui viennent d'Outre-mer, des lycées français. Donc, disons qu'à Sarlat, tout d'un coup, devient un petit centre névralgique. Ils se rencontrent. Et c'est vrai que Sarlat, en plus, c'est une ville qui est animée une grande partie de l'année parce que c'est une ville très touristique, qui accueille beaucoup, beaucoup de gens toute l'année. Et il y a un petit blues de l'arrière-saison qui arrive. Les commerces, enfin, certains hôtels, certains gîtes commencent à fermer un petit peu leurs portes. Mais ils attendent le festival de Sarlat avant de le faire. Donc, on est un peu la voiture balai de la saison. Je trouve ça sympa de terminer une saison touristique voilà, de cette façon, à l'échelle locale, c'est plutôt joyeux avant d'attaquer une petite pause hivernale pour mieux repartir au printemps. Mais c'est vrai que la ville bénéficie d'un petit regain d'énergie à ce moment-là, sur la semaine du festival.
Et oui, et qui fait du bien. Alors, dès demain, le festival va s'ouvrir parce que le public n'est pas en reste. Vous allez pouvoir venir découvrir de nombreux films au Rex à Sarlat. Et demain soir, pour l'ouverture, c'est Dossier 137 de Dominique Moll qui va ouvrir, en tout cas, cette nouvelle édition. On pourra découvrir dans la sélection Love Me Tender, le nouveau film d'Anna Cazenave-Cambé, La Femme 2 de David Roux avec Mélanie Thierry, le nouveau film du duo Lisa Coca et Romane Guéret qu'on attend beaucoup. Après Les Pires, c'est Ma Frère qu'on va découvrir. Animal Totem, Benoît Delépine sera là. On aura Romane Boringer qui fait l'honneur de venir pour nous faire découvrir son film sur Clémentine Autain. Dites-lui que je l'aime, Les Enfants Vont Bien, que nous on a pu découvrir déjà dans un autre festival, qui est extraordinaire, nouveau film de Nathan Ambrosioni. Et puis l'affaire Bojarski qui fermera le festival. Vous allez pouvoir faire le plein également, on le disait, d'une sélection autour du monde qui va vous emmener. Moi je vous conseille Promis le ciel, qui est absolument magnifique. Puis vous allez pouvoir découvrir aussi, bien sûr, les films hors sélection, où là aussi il y a de l'événement, je vous le dis. Avec Hors Compétition, on va pouvoir découvrir, par exemple, le premier film, je dirais même, de Joséphine Japy, qui brille au combat, qui est absolument magnifique, ou encore le film d'Al Malik, Fursi, Né Libre, avec vraiment un comédien absolument incroyable, Makita Samba, qui est absolument dingue dans ce film. Donc voilà, on va pouvoir faire en tout cas le plein. On se rejoint demain ?
On se rejoint demain, j'ai hâte.
Eh ben écoute, nous aussi on a hâte, on va vous faire vivre évidemment cette édition sur tous nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, etc. Et puis on va rencontrer les équipes évidemment pour vous les faire partager tout au long de cet hiver, puisque les films sortiront évidemment dans les mois qui arrivent, on va pouvoir les voir avant tout le monde. Merci beaucoup et à demain Christelle.
À demain Alain, merci beaucoup.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Allez, lundi prochain dans Chute, on écoute la télé, nous recevrons Mélanie Bernier pour le film Prisonnière qui sera diffusé sur OCS. On aura le plaisir de recevoir l'équipe de la mini-série Désenchantée, Constance Labbé notamment, qui sera avec nous. Le gang des Amazones, notre coup de cœur ciné. On recevra Isia Higelin, Mallory Wanek, Kenza Fortas et la réalisatrice Mélissa Drijard. Et puis événement avec le film Les Rêveurs, Isabelle Carré sera notre invitée exceptionnelle.
Le rendez-vous des stars. C'est Chut, on écoute la télé, votre talk show radio.
Allez, je vous invite à rester connecté avec nous. N'oubliez pas que vous avez également le podcast de la quotidienne tous les jours à midi sur notre site onécoutelatélé.com et que chaque lundi à 20h, on vous donne rendez-vous évidemment pour le podcast de l'hebdo de Chut, on écoute la télé. Vous pouvez rester également connecté avec nous tout au long de la semaine sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé et télécharger également nos applications pour iPhone et Android. Chut, on écoute la télé. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast de Chut, on écoute la télé, l'hebdo. À lundi prochain, 20h.
Chut, on écoute la télé avec Langélis, votre maître artisan glacier en Nouvelle-Aquitaine. Des glaces sans ajout d'arômes, sans colorants, sans conservateurs. Découvrez les sorbets, crèmes glacées, cônes artisanaux et la nouvelle gamme de peaux gourmands, Jade et Ali, disponibles dans vos rayons en grande surface. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré. Chut, on écoute la télé avec vos boutiques de prêt-à-porter Speak en Nouvelle-Aquitaine. Speak, c'est la mode homme, femme, des pépites chaque semaine pour tous les budgets. Mais Speak, c'est aussi un corner seconde vie pour les vêtements que vous ne portez plus. Alors n'hésitez pas. Plus de 15 boutiques Speak vous attendent en Nouvelle-Aquitaine. Retrouvez toutes les adresses et la boutique en ligne sur speak.fr.